franceinter.fr.
20h05, l'heure de notre Madeleine du soir avec Un été avec Proust et vous, Laurel Maki. Bonsoir.
Bonsoir, Laurélie, à tout à l'heure pour un nouveau journal.
Marcel !
Le souvenir d'une certaine image n'est que le regret d'un certain instant.
Mon Dieu, mais j'oubliais. C'est l'heure.
Un été avec Proust. Une émission de Laura El Maki.
Le souvenir d'une certaine image n'est que le regret d'un certain instant. C'est ainsi que se clôt du côté de chez Swann, sur cette citation pleine de nostalgie. Le narrateur, vieilli, qui a d'abord raconté son enfance à Combray, avant de revenir sur la vie et les amours de Charles Swann, se rend au bois de Boulogne et constate que le temps a passé. Là-bas, marchant dans l'avenue des Acacias, foulant le sol recouvert de feuilles jaunes, notre héros constate que les femmes jadis admirées sont devenues vieilles et que, je cite, « les maisons, les routes et les avenues sont fugitives, hélas, comme les années ». Avant donc d'être un roman sur la réappropriation par l'homme de son passé et sur le miracle du temps retrouvé, À la recherche du temps perdu est, comme son titre l'indique, un livre sur la perte et sur la conscience de la perte. Alors comment Marcel Proust rend-il compte de la toute-puissance du temps? C'est la question qui nous occupera ce soir avec Antoine Compagnon.
À Combray, tous les jours dès la fin de l'après-midi, longtemps avant le moment où il faudrait me mettre au lit et rester sans dormir loin de ma mère et de ma grand-mère, ma chambre à coucher redevenait le point fixe et douloureux de mes préoccupations. On avait bien inventé pour me distraire les soirs où on me trouvait l'air trop malheureux de me donner une lanterne magique, dont, en attendant l'heure du dîner, on coiffait ma lampe. Et à l'instar des premiers architectes et maîtres verriers de l'âge gothique, elle substituait à l'opacité des murs d'impalpables irisations, de surnaturelles apparitions multicolores, où des légendes étaient dépeintes comme dans un vitrail vacillant et momentané. Mais ma tristesse n'en était qu'accrue, parce que rien que le changement d'éclairage détruisait l'habitude que j'avais de ma chambre, et grâce à quoi, sauf le supplice du coucher, elle m'était devenue supportable. Maintenant, je ne la reconnaissais plus et j'y étais inquiet, comme dans une chambre d'hôtel ou de chalet où je fusse arrivé pour la première fois en descendant de chemin de fer.
Bonsoir Antoine Compagnon.
Bonsoir.
André Dussolier nous lisait à l'instant un extrait de Du côté de chez Swann où le narrateur adulte évoque le souvenir de sa chambre de Combray quand il y dormait étant enfant. Et c'est vrai que la recherche du temps perdu accorde une grande place au souvenir. C'est même la grande affaire de ce livre. Est-ce que c'est un roman nostalgique pour autant?
Non. Vous avez la fin de Du côté de chez Swann, et là, on a cet élément de nostalgie, de mélancolie pour ce temps perdu. Mais Proust dit dans beaucoup de lettres à un certain nombre de ses amis, attention, attention, c'est une conclusion provisoire. À la fin de Du côté de chez Swann, je n'ai pas encore compris comment retrouver le temps. N'oublions pas que c'est un livre très composé, très construit, malgré l'apparence qui a pu tromper les premiers lecteurs. Et Proust devait toujours insister pour dire que tout était structuré, qu'il y aurait des retours. Donc il y a des anticipations et des retours. Alors évidemment, dans Du côté de chez Swann, on peut avoir le sentiment de cette mélancolie, de ces regrets, de cette nostalgie pour le temps passé. Mais en même temps, si on est un bon lecteur, un lecteur attentif, et il y en a eu dès le début, bien avant le temps retrouvé, qui ont reconnu un certain nombre d'indices que c'était un livre, au fond, heureux, et on le sait, dès l'épisode de la Madeleine, à la page 30, ou à peu près.
Alors, la grande découverte du narrateur et de ce livre, c'est la mémoire involontaire qu'il oppose à celle de l'intelligence.
Ben, c'est justement lié à cet épisode, puisque c'est lors de cet épisode que le héros est envahi par un grand bonheur, par une sorte de ravissement. Et ce ravissement est lié, au fond, à une expérience assez banale que nous connaissons tous, hein, qui est celle de cette mémoire involontaire où une sensation imprévue, soudaine, nous donne le sentiment de nous retrouver dans le passé. Je pense que beaucoup de gens ont éprouvé cela, qu'une odeur, qu'un bruit nous rappelle quelque chose qui était absolument perdu. C'est ça que Proust appelle la mémoire involontaire, et c'est ça dont il dit que ça ressemble un peu, mais que ce n'est pas la même chose que la mémoire de Bergson. Mais c'est aussi des choses qu'on pourrait trouver de même nature chez dans la réflexion d'un certain nombre de contemporains comme Freud. Donc, l'idée qui est là, c'est que tout est oublié, mais que tout survit d'une certaine manière dans cette mémoire enfouie, et que le rôle du hasard est très important pour faire revenir ces souvenirs. C'est aléatoire que ce retour de la mémoire involontaire.
Oui, cette mémoire, elle est involontaire, elle est spontanée. Et Proust en parle comme d'une pharmacie où l'on trouve des drogues calmantes, mais aussi des poisons dangereux.
Alors évidemment, il y a deux types de mémoire involontaire. Il y a celle qui envahit de bonheur et celle qui envahit de douleur. Et ces douleurs sont liées à l'amour. On en a un bel exemple dans Un amour de Swann avec la sonate de Vinteuil qui réveille, qui a été l'air national de l'amour de Swann pour Odette, et qui réveille en lui de grandes douleurs lorsqu'il la retrouve à l'improviste au cours d'une réception chez Madame de Sainte-Euverte. Et c'est là la musique qui provoque ce malheur. Et puis le moment évidemment le plus douloureux, le plus touchant, c'est celui sur lequel j'ai eu à travailler, et je ne travaillais jamais sur ces pages à la Bibliothèque Nationale sans presque me mettre à pleurer moi-même, ce sont les pages des intermittences du cœur dans Sodome et Gomorre, lorsque le héros arrive à Baalbek pour sa seconde visite au bord de la mer, et que la première nuit, en se déchaussant, soudain il est envahi par le souvenir de sa grand-mère, qui est morte depuis un an, et dont il n'avait pas vraiment pris conscience de la mort. C'est une page extrêmement belle pour cette raison.
Nous allons justement l'écouter, elle nous est lue par Guillaume Gallienne.
Bouleversement de toute ma personne. Dès la première nuit, comme je souffrais d'une crise de fatigue cardiaque, tâchant de dompter ma souffrance, je me baissais avec lenteur et prudence pour me déchausser. Mais à peine eus-je touché le premier bouton de ma bottine, ma poitrine s'enfla, remplie d'une présence inconnue, divine. Des sanglots me secouèrent, des larmes ruisselèrent de mes yeux. L'être qui venait à mon secours, qui me sauvait de la sécheresse de l'âme, c'était celui qui, plusieurs années auparavant, dans un moment de détresse et de solitude identique, dans un moment où je n'avais plus rien de moi, était entré et qui m'avait rendu à moi-même, car il était moi, et plus que moi. Je venais d'apercevoir dans ma mémoire, penché sur ma fatigue, le visage tendre, préoccupé et déçu de ma grand-mère, telle qu'elle avait été ce premier soir d'arrivée. Le visage de ma grand-mère, non pas de celle que je m'étais étonné et reproché de si peu regretter et qui n'avait d'elle que le nom, mais de ma grand-mère véritable, dont pour la première fois depuis les Champs-Élysées où elle avait eu son attaque, je retrouvais dans un souvenir involontaire et complet la réalité vivante. Cette réalité n'existe pas pour nous tant qu'elle n'a pas été recréée par notre pensée. Et ainsi, dans un désir fou de me précipiter dans ses bras, ce n'était qu'à l'instant que je venais d'apprendre qu'elle était morte. J'avais souvent parlé d'elle depuis ce moment-là, et aussi penser à elle. Mais sous mes paroles et mes pensées de jeune homme ingrat, égoïste et cruel, il n'y avait jamais rien eu qui ressemblât à ma grand-mère, parce que dans ma légèreté, mon amour du plaisir, mon accoutumance à la voir malade, je ne contenais en moi qu'à l'état virtuel le souvenir de ce qu'elle avait été. Car aux troubles de la mémoire sont liées les intermittences du cœur.
Antoine Compagnon, ce que nous dit Proust ici, c'est qu'il y a des pertes irrémédiables.
Oui, et des pertes dont on ne se rend pas compte tout de suite, puisque ce qui est très très beau dans ce passage, c'est cette expérience de l'adolescent qui a perdu sa grand-mère et qui n'a pas pris la mesure de ce choc pendant très longtemps. Comme il dit encore dans ce passage, le calendrier des faits ne coïncide pas avec celui des sentiments. Et il faut justement ce hasard de la sensation, de cette bottine qu'il enlève pour qu'il comprenne qu'il ne reverra plus jamais sa grand-mère. Et La recherche du temps perdu est d'une certaine façon un monument à ces morts qui nous entourent, qui leur donne voix, qui les fait parler, qui les commémore. Et c'est évidemment l'une des pages les plus touchantes de la recherche du temps perdu, mais qui nous montre bien que la mémoire involontaire, on doit l'associer au bonheur, mais aussi au malheur.
Oui, il y a un vertige du temps. Quoi que l'on fasse, il est plus fort que nous.
Il est plus fort que nous, et en même temps, la recherche le domine,
oui.
Puisqu'à partir du temps retrouvé, le narrateur découvre le moyen de faire de cette mémoire involontaire le ressort de la littérature.
Un été avec Proust, Antoine Compagnon, Laura El Maki.
Revenons à la rédaction de la recherche et finalement au rapport qu'entretiennent les deux volumes qui encadrent ce livre, Du côté de chez Swann et Le temps retrouvé, qui ont été écrits en même temps, simultanément.
Proust exagère un peu quand il dit ça, mais il a écrit souvent et dit à ses amis « La fin a été écrite aussitôt après le début ou en même temps ». Bon, il exagère un peu parce que c'était pas tout à fait la même fin qu'il avait à l'esprit à ce moment-là. Ce n'était pas cette matinée, chez la princesse de Guermantes et ce bal de tête. À ce moment-là, il imaginait une conversation avec sa mère et donc c'était une autre fin. Mais c'est vrai que le livre est solidement posé sur ce début et sur cette fin, c'est-à-dire sur la théorie de la mémoire involontaire, puisque c'était ça qu'il aurait développé dans cette conversation avec maman.
Le début du côté de chez Swann, qui se conclut sur un constat un petit peu triste et qui s'oppose, on a vraiment une autre leçon qui nous est donnée par Proust dans Le temps retrouvé.
Oui, Le temps retrouvé contredit la fin de Du côté de chez Swann. Ce qui pose un petit problème, parce que du coup on se demande quand cette fin de Du côté de chez Swann a été écrite. Si, à la fin du temps retrouvé, le narrateur a trouvé le ressort de la littérature, il ne pouvait pas écrire la fin de Du côté de chez Swann. Donc il y a des invraisemblances. C'est ce qui en fait un grand roman, justement.
Alors le miracle de la mémoire involontaire est expliqué à la toute fin de la recherche, mais avant cela, tout au long des 3000 pages, cette mémoire agit un peu à sa guise. Samuel Beckett avait d'ailleurs cette expression, il disait que c'était une magicienne rebelle.
Mais je crois que on découvre à la fin de la recherche du temps perdu le secret, comme vous dites, de cette création. Mais si on a lu La recherche du temps perdu, si on l'a vraiment lu au-delà du premier volume, si on a été accroché, si on a été possédé par ce livre, on a déjà compris de quoi il s'agissait. Ce qui est très frappant, justement, c'est que Proust, au fur et à mesure qu'il réécrivait son livre, qu'il le développait, l'améliorait, a supprimé les anticipations de la fin. Toute cette pédagogie un peu simpliste qui nous disait « il va arriver quelque chose ». Donc il y a la Madeleine qui est au début, mais ensuite il n'y a plus beaucoup d'épisodes de mémoire qui sont jetés comme des amorces au fur et à mesure de la lecture. Et puis il y a ce festival qui a lieu dans l'adoration perpétuelle, dans Le temps retrouvé. Mais je crois que le lecteur... disons le bon lecteur, le lecteur suffisant, comme disait Montaigne, a compris cette dimension d'une certaine façon rédemptrice de la littérature, que joue la littérature par rapport à la vie et par rapport à la mort. D'une certaine façon, je crois qu'il faut dire que c'est un livre heureux, C'est un livre...
C'est un livre qui finit bien.
C'est un livre qui finit bien, ce qui est tout à fait exceptionnel dans la modernité. La modernité a accumulé les livres qui finissent mal. Presque tous les livres, sauf les livres à l'eau de rose, dans la modernité, se terminent de manière catastrophique, y compris ceux de Beckett. Ils ne nous mènent pas. Et justement, je crois que c'est ce que Beckett reprochait à Proust. Beckett reprochait à Proust cet aspect... rédempteur de cette littérature qui rachète la vie et qui au fond appartient à une tradition romantique. Si un écrivain est allé au-delà de Proust et a compris Proust, l'un des premiers, c'est bien Samuel Beckett qui a écrit sur lui très tôt et qui a tenté de mener la littérature au-delà de Proust.
Merci Antoine Compagnon et à demain pour explorer l'ultime facette du temps chez Proust. On en a déjà un peu parlé ce soir. Ce sera le temps retrouvé pour notre dernière émission en votre compagnie.
Stars of mine turned into dust.